Un voyage intérieur de l'océan à Guerlédan. C'est le titre de ce livre riche en photographies, signé Éric Morency pour les photos et dont l'auteur des textes est avec nous. C'est Christian Guyonvar qui est écrivain et biographe. Et il nous invite à suivre l'appel du canal de Nantes à Brest. Lui-même vit près de Brest, donc il s'en est allé au fin fond du centre de la Bretagne. Cet intérieur, toujours plein d'eau cependant. L'eau, c'est le fil conducteur de ce beau livre paru aux éditions Morency. Le canal de Nantes à Brest en particulier, le plus grand monument jamais construit en Bretagne. L'auteur s'adresse au lecteur directement en le tutoyant. On se sent donc bien embarqué, d'autant plus que les images sont superbes. Bonjour Christian Guyonvert.
Bonjour Véronique.
Alors, qui est à l'origine de ce livre et pourquoi ?
C'est un travail d'équipe, je dirais même d'équipage, puisque le principe du livre, c'est un peu d'embarquer la lectrice ou le lecteur comme sur un bateau pour remonter le canal. Et en fait, je suis le dernier membre de l'équipage. Parce que c'est un projet qui a été conçu il y a plusieurs années par Claude Prigent, qui est entrepreneur et mécène du Centre Bretagne, très attaché à son territoire.
Alors il a créé Préma, c'est-à-dire du recyclage des matériaux, il était assez précurseur.
Voilà, très investi aussi dans le syndicat, l'office de tourisme du Cresbreiz depuis très longtemps. Éric Morency, donc, qui est photographe, pas breton d'origine, puisqu'il habite en région parisienne, mais breton d'adoption, et qui prend des photos de paysages en particulier en Bretagne depuis longtemps. Et puis le regretté Jean Kergrist. L'idée, c'était de consacrer un beau livre à la Bretagne intérieure, parce qu'il y en a tant et tant sur les îles et sur la Bretagne littorale. Et on s'est dit qu'ils se sont dit, et j'ai rejoint ce projet, que la Bretagne intérieure méritait aussi ce genre d'ouvrage.
Il faut dire que Claude Prigent, en plus, c'est quelqu'un qui croit vraiment à la remise en navigation du canal. Enfin, il milite là-dessus, il a mené plusieurs actions.
Tout à fait. Donc, il a remis en fait une péniche en navigation, une péniche de travail sur le canal qui sert depuis 3 ans en fait transporter le bois de débardage. Sur le canal jusqu'à Port-de-Carré pour alimenter la filière bois-énergie du Poer. Donc c'est une action qui est menée depuis 3 ans en partenariat avec la communauté de communes du Poer, le pays du centre-ouest de Bretagne et la région Bretagne.
Et ça fonctionne.
Et ça fonctionne très bien, c'est beaucoup plus efficace et évidemment beaucoup moins polluant que le transport par camion.
Pourquoi est-ce que vous êtes dans le livre, en fait, c'est Brest-Guerlédan, c'est-à-dire que ce n'est pas la totalité du canal de Nantes à Brest. Alors pourquoi cette partie-là, précisément ?
Parce que c'est le tronçon le moins connu du grand public, parce que le tourisme fluvial y est moins développé, plus récent que sur la partie orientale. Et c'est pourtant, alors j'espère qu'il n'y a personne de Bretagne orientale qui nous écoute, c'est la partie la plus belle au plan, en tout cas paysager. Je ne dirais pas au plan du patrimoine bâti, parce qu'il y a un patrimoine bâti exceptionnel aussi sur la partie orientale du canal, par exemple le château de Josselin. Au plan des paysages, c'est plus remarquable, parce que, à cause de la topographie mouvementée. Donc ça monte beaucoup, on monte quand même jusqu'à plus de 180 mètres à Glomel, et donc c'est tout en courbe, en méandre. C'est moins monotone, beaucoup. Il y a des portions plus monotones à l'est. Ça n'existe pas à l'ouest, mis à part la grande tranchée de Glomel, puisqu'il a fallu percer sur 3 km une montagne de schiste. Mais tout le reste du tracé, c'est tout en courbe.
Et à l'est, bon, c'est étonnant, parce qu'on pourrait se dire la partie la plus proche de la mer serait la plus touristique. Et en fait, non, c'est la plus intérieure, finalement. C'est du fait de la densité de population, peut-être aussi, donc, qu'elle est plus connue.
Et le fait que les écluses ont été entretenues, plus qu'ici.
Elle est restée navigable tout le temps, c'est
elle
ça
Elle est restée navigable tout le temps. En fait, le tourisme à l'est, en Loire-Atlantique et dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine, le tourisme fluvial a pratiquement pris la suite du trafic commercial dans les années 60-70. Il n'y a pas eu de rupture. Alors qu'ici, à l'ouest, quand le trafic commercial sur le canal s'est terminé à la fin des années 50, début des années 60, il y a eu entre 20 et 30 ans où il ne s'est pratiquement plus rien passé.
Le canal aurait pu mourir. Enfin, cette partie du canal aurait pu mourir quasiment, en fait.
En tout cas, entre Port-Launay et Guerlédan, c'était pratiquement, on peut dire, à l'abandon. Et depuis une vingtaine d'années, il y a des gens qui relancent le canal, qui est maintenant praticable pour le tourisme fluvial. Et on le voit avec Ypres-Mâts, il y a aussi des perspectives de relance de la vocation commerciale, la vocation économique du, autre que touristique du canal.
Donc transport de marchandises.
Transport de marchandises. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a des entreprises qui misent beaucoup sur, par exemple, le transport à la voile en mer. Donc des produits qui ne nécessitent pas d'être transportés très vite.
Du non périssable, enfin du non peu périssable.
Du non périssable. Et la prise en compte de l'impact du transport sur le dérèglement climatique et sur l'environnement. Et qui ont, il y a donc des entreprises qui cherchent des moyens de transport alternatifs. Et le canal peut en être un.
Par exemple, qu'est-ce qu'il, Claude Prigent, qui est bien au fait de tout ça, qu'est-ce qu'il envisage, entre guillemets, à part le bois pour les chaufferies bois du Power, qu'est-ce qu'il pourrait transporter
On peut imaginer tout à fait demain, comme c'est le cas par exemple par le transport à la voile aujourd'hui, et comme c'était le cas autrefois, le canal servait à importer vers le centre-Bretagne des vins, des spiritueux. Tout à fait imaginer demain, effectivement, de retrouver cette vocation.
Ah, ça pourrait même se faire dans les deux sens, puisqu'il paraît qu'on va produire du vin là, dans le Finistère, petit à petit.
Et exporter des bières du centre-Bretagne.
Oui, il y en a beaucoup en plus.
Oui, par le canal.
Comment est-ce que vous avez travaillé alors sur cette quand même vaste portion, parce que de Brest à Guerlédan, c'est quand même énorme. Donc, avec le photographe, vous-même, Christian Guillon-Vard, pour les textes, comment vous avez fait ?
Il y a eu deux phases. Je me suis d'abord inspiré du fonds photographique d'Éric Morency, parce qu'Éric photographie le centre-Bretagne depuis une quinzaine d'années. Il y avait un fonds là de plusieurs milliers de photos. Donc, à partir de ces photos, j'ai fait des repérages de sites. Je suis allé sur site. Et dans un second temps, donc j'ai parcouru l'ensemble de cette portion du canal.
Et alors, plutôt à pied, plutôt en voiture ?
À vélo, à pied. Ouais. Mais je suis allé sur l'eau aussi, kayak et même péniche. Donc, voilà. Et dans un second temps, après avoir fait ce travail de repérage, Éric a fait des photos complémentaires. Par exemple, du nouveau pont de Térénès, parce qu'il avait photographié l'ancien. Il avait photographié aussi le chantier de construction du nouveau pont. Je pense aussi à l'ancienne usine hydroélectrique de Châteaulin, de 1887. Qui est malheureusement un site un peu à l'abandon. Et c'est dommage parce que c'est un témoignage de l'histoire industrielle de la Bretagne. Châteaulin a quand même été la troisième commune en France à disposer de l'éclairage électrique urbain.
1905, c'est ça, je crois.
1887, six ans après New York, avant Paris. La population de Châteaulin a bénéficié de l'éclairage public électrique avant Paris.
Et il n'y avait pas d'électricité dans toutes les maisons. Hein, c'était l'éclairage public.
Je parle de l'éclairage public dans les rues, mais grâce au canal. Et là, on voit bien comment le canal a apporté de la modernité dans tous les territoires qu'il a traversés.
Donc, vous visitiez, vous arrêtiez de temps en temps, vous faisiez des escales. C'est vous qui avez choisi les photos plutôt, enfin les points d'intérêt en fait, ou les sujets.
Je suis parti des photos d'Éric, je lui ai dit voilà, ça m'inspire. Et puis après m'être donc déplacé sur le canal, avoir visité les sites traversés par le canal, Éric a fait des photos complémentaires.
Et vous aviez totale carte blanche ou vous aviez quand même défini avec Claude Prigent une sorte de trame du livre ?
Non, carte blanche totale. Le mot d'ordre, c'était simplement faisons un beau livre consacré à la Bretagne intérieure avec pour fil rouge, ou je devrais dire plutôt pour ruban vert, le canal et les cours d'eau qui l'alimentent. C'était la seule demande et donc sinon on avait carte blanche.
Et alors les photos d'Éric Morency, il faut préciser, hein, ce sont des photos aériennes essentiellement, enfin uniquement, quasiment. Enfin, comment il travaille, lui, par drone alors, ou...
Là aussi, ça a été un sujet de discussion avec Claude Prigent et Éric. Et on s'est dit, pour mettre en valeur les paysages du centre de la Bretagne intérieure, rien de mieux que les, et aussi le patrimoine bâti, rien de mieux que les photos aériennes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas envisager d'aborder le sujet autrement, d'une autre manière. Par exemple, avec des portraits de femmes et d'hommes qui font vivre le canal aujourd'hui, parce qu'il y en a. Mais disons que ce livre-là, le parti pris, c'était effectivement le canal et la Bretagne intérieure vue du ciel.
Et vous, quel était votre rapport avec le canal ? Enfin, est-ce que vous, avant de mener ce travail, qui a duré combien de temps d'ailleurs, à peu près
18 mois.
Ah oui. Quel était votre rapport au canal ? Il était lointain ? Vous le connaissiez bien ?
Non, je ne le connaissais pas bien. J'avais parcouru quelques tronçons à vélo, mais je n'avais pas pris la mesure de la richesse patrimoniale de ce canal. Et certainement pas, parce que je ne m'étais pas penché sur le sujet, de l'ingéniosité extraordinaire qu'il a fallu pour le construire il y a deux siècles. Je dis souvent maintenant que notre canal de Nantes à Brest, et les autres canaux bretons aussi, parce qu'il y a le canal d'Illérance, il y a le canal du Blavet, c'est notre muraille de Chine à nous. mais on n'en a pas forcément conscience parce que quand on dit monument,
oui,
on pense à quelque chose de vertical comme la Tour Eiffel.
Un bâtiment dans lequel on rentre.
Et qu'on monte, voilà, on monte vers le ciel. Alors que là, on a affaire à un monument à l'horizontale sur 365 km. Mais c'est quand on se penche sur, sur les caractéristiques architecturales de ce canal, c'est proprement extraordinaire.
Oui, pourquoi expliquez-nous.
Alors déjà, bon, il y a 238 écluses de Nantes à Brest. Chacune fait 6000 tonnes. C'est un poids supérieur quand on rassemble rien que les écluses. Supérieur à la pyramide de Khéops, qui est la plus grande pyramide d'Égypte.
En termes de pierre, hein, c'est ça, vous parlez de pierre. Ouais, pour les avoir construites.
Mais, il faut ajouter évidemment les quais, il faut ajouter les maisons éclusières. Et puis, il y a le canal en lui-même, donc cette cuvette là, dans laquelle l'eau circule. Et il faut s'imaginer que sur 365 km, il y a une couche, un mélange d'argile et de paille sur 30 cm d'épaisseur sur 365 km. Et pour consolider les berges, il y a des murs de pierre plate sur 2 à 3 mètres de haut sur 365 km. Et ça a été conçu à l'époque avec simplement des pelles, des
pioches. À l'époque de Caen à Caen d'ailleurs, en gros la construction.
Alors, entre 1822 et 1842.
Ouais, donc ce qui est assez rapide finalement, 20 ans. C'est rapide, on a une idée du nombre de personnes qui ont participé à la construction.
Alors, des milliers. Alors,
ouais, c'est ça.
On pense évidemment aux bagnards qui ont creusé la tranchée de Glomel. Donc, mais pour le reste du tracé, c'était des ouvriers.
Et les pierres sont locales.
Les pierres sont locales, oui.
Évidemment.
Donc il y a des carrières, évidemment, beaucoup de carrières qui ont été ouvertes à cette époque-là pour alimenter effectivement le chantier du canal.
Et par rapport au chantier, c'est vrai que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un canal qui a finalement très peu servi, pour l'usage pour lequel il était prévu au départ. C'est-à-dire, c'était contourner les blocus. Déjà, il a démarré bien après les blocus napoléoniens, des Anglais.
On dit que c'est Napoléon qui a lancé la construction du canal. Ça n'est pas faux, en ce sens que la première écluse de Guidiglas, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, parce qu'elle était plus petite, la première, c'est effectivement sous le règne de Napoléon Bonaparte qu'elle a été construite, mais le projet du canal remonte au Parlement de Bretagne au XVIIe siècle. Donc c'était les élus bretons de l'époque qui, pour des raisons de développement économique, avaient pensé ce canal. Mais il est vrai que quand Napoléon Bonaparte commencé à concrétiser l'idée, c'était pour une réponse au blocus naval, effectivement, de l'Angleterre. Et puis ensuite, quand il est entré en service au XIXe siècle, il a en fait répondu à un besoin économique.
Mais pas très longtemps par rapport à...
Alors, pas très longtemps parce
que... Il n'y avait plus de blocus déjà.
Le chemin de fer est venu le concurrencer.
En plus, voilà.
Et puis la route, il n'empêche que l'année où le canal a connu son trafic de marchandises le plus important, 174 000 tonnes, c'est 1911. Donc on voit quand même que jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le canal a eu une réalité économique très importante et a vraiment largement contribué à développer l'activité agricole dans les montagnes noires, par exemple, en permettant d'amener des amendements calcaires, du merle prélevé dans la rade de Brest jusqu'à l'intérieur de la Bretagne. Et évidemment, il y a eu l'exportation des ardoises.
La route de l'ardoise, d'ailleurs, lieu maintenant.
Et l'activité ardoisière s'est vraiment développée avec le canal. Et aujourd'hui, évidemment, quand on pense à la Bretagne, aux maisons en Bretagne, en ville comme à la campagne, on pense à des toits d'ardoise. Il faut avoir en tête qu'avant l'ouverture du canal, la plupart des maisons en Bretagne avaient des toits de chaume. C'est en fait le canal qui a permis de développer l'extraction d'ardoise en Bretagne.
Et évidemment, l'extraction d'ardoise, on la faisait pas loin du canal, forcément.
Y avait une bonne trentaine d'ardoisières entre Port-Launay et Gourin, qui ont permis d'extraire jusqu'à 34 millions d'ardoises par an, au plus fort de l'activité ardoisière. L'ardoisière du RIC, près de Châteauneuf, a fonctionné entre le 15e siècle et 1949. Donc ça a été une activité d'abord artisanale puis industrielle très importante en Centre-Bretagne.
Le voyage intérieur de l'océan à Guerlédan, donc sur le canal de Nantes à Brest, partie ouest. de ce canal, en compagnie de Christian Guillonvard, qui est auteur avec Éric Morancy de ce beau livre lancé par Claude Prigent, entrepreneur de Carhaix, dirigeant d'Iprema, et par le clown Jean Kergrist, qui était aussi à l'origine de ce projet. Christian, donc on a vu un peu déjà le projet, comment il s'est monté, comment vous avez été happé par le canal. Donc le livre, en fait, c'est pas vraiment des escales. Enfin, il y a quand même un schéma géographique. Hein, on part de la mer et on remonte. Hein, voilà.
D'où le titre.
Voilà. Après, vous, les thèmes, c'est plutôt beaucoup d'économie, on va dire, et d'histoire. L'aspect artistique aussi, parce que c'est des ouvrages, c'est un ouvrage d'art aussi. C'est pas seulement un monument, hein, ce canal. Et puis, il y a des artistes qui ont été inspirés par le canal. Vous en parlez un petit peu.
Alors, ce qui est important peut-être de souligner, c'est que ce n'est pas un guide touristique.
Ouais, pas du tout.
C'est à la fois, je dirais, c'est entre le récit de voyage et la poésie narrative. Et donc, les paysages sont souvent évoqués. La biodiversité qui est très riche le long du canal, on n'en a pas forcément conscience. Il y a quelques 600 espèces animales qui ont été recensées au bord du canal.
Alors, au bord, oui.
Au bord, oui. Ouais. Ou dans le canal.
Oui.
700, on pense aux poissons, évidemment, 700 espèces végétales. Rien qu'une centaine d'essences d'arbres le long du canal de Nantes à Brest, ce qui fait une grande différence avec les canaux du midi de la France, du sud de la France, par exemple, où on ne trouve souvent que des platanes, quand il y a encore des platanes, parce qu'ils sont malheureusement touchés par la maladie du chancre. Donc, il y a cette très, c'est vraiment un réservoir de biodiversité.
Parce que les arbres n'ont pas tous été implantés en fait, au bord du canal de Nantes à Brest. Il y en a qui sont restés parce qu'ils étaient là. Alors, ou
beaucoup
sont
ont été
seuls.
Plantés quand même. Alors, une des caractéristiques du canal, c'est que notamment les tilleuls ont été plantés systématiquement près des maisons éclusières parce que les fleurs donc, du tilleul... permettent de prévenir ou de soigner les maladies respiratoires. Et donc, comme les familles d'éclusiers et les éclusiers eux-mêmes vivaient au bord du canal en permanence...
L'humidité.
Voilà, très, très pratique. Mais on trouve évidemment des chênes, des hêtres, des frênes, des noisetiers, des châtaigniers, une centaine d'espèces d'arbres. Donc, c'est assez exceptionnel et assez unique en France.
Et donc, malgré les écluses, il y a des poissons.
Oui, des poissons, on retrouve effectivement des poissons, des espèces de poissons, y compris des poissons migrateurs, des saumons. On commence à retrouver du saumon. Voilà, donc oui, il y a aussi une bonne vingtaine d'espèces de poissons qu'on retrouve dans le canal.
Oui, parce que le canal, il faut peut-être expliquer comment est-ce qu'on fait un canal. Enfin, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais on détourne en quelque sorte des fleuves naturels. Bon, là, c'est l'Aulne et l'Yerre, hein, c'est ça
Oui, alors il y a eu effectivement, si on remonte l'Aulne, d'abord... Si on remonte les cours d'eau, on part évidemment de l'océan Atlantique, l'Aulne maritime, qui est une partie intégrante du canal, même si ça n'est pas canalisé. La partie canalisée proprement dite commence à Port-Launay, c'est la première écluse quand on part de l'ouest. Et puis ensuite, on rejoint l'Yerre au niveau de Carhaix, et puis le Kerguat. L'Yerre au niveau de Spézet et Clénapoère, pardon, le Kerguat au niveau de Carhaix, puis le Doré. À Glomel.
Donc Kerguat et Doré, c'est des affluents.
C'est des affluents. Et puis le Blavet, puisqu'en fait, la grande tranchée de Glomel a été nécessaire pour réunir deux bassins, le bassin de l'Aulne et le bassin du Blavet. Et sinon, le reste du tracé à l'ouest de Guerlédan suit à peu près les cours naturels des rivières.
Voilà, donc, et oui, voilà, elles ont été certes canalisées, mais elles existent toujours en tant que telles, enfin, quasiment, quoi.
Oui, tout à fait.
D'où le relief aussi, enfin, le relief, la sinuosité aussi relative du canal.
C'est tout à fait ça. C'est un canal qui est en grande partie resté à l'état naturel. C'est ce qui fait son charme.
Alors, vous mentionnez aussi, bien sûr, le patrimoine lié au canal. Alors, on a mentionné l'usine hydroélectrique de Châtelain. Il y a d'autres bâtiments ou sites intéressants à signaler
Il y en a beaucoup. Bon, on pense au château de Trévarez, évidemment, qui doit aussi son existence en grande partie au canal parce que la construction de ce château a pris une bonne vingtaine d'années et tous les matériaux ont été véhiculés, transportés sur le canal. S'il avait fallu les transporter par la route, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas sûr que James de Kerjigu aurait mené à bien son projet. Il y a d'autres sites qui ont précédé la construction du canal et qui sont au bord du canal. Je pense au château de Coat-Couraval, à Glomel, la chapelle. Alors ça a été une de mes découvertes, je ne connaissais pas. La chapelle de la Pitié à Mélionnec, qui se trouve posée au bord de l'eau, à proximité d'une écluse double, l'écluse double de Quadnatus. Et la chapelle de la Pitié n'a pas bougé, que ce soit son aspect intérieur ou extérieur, depuis sa construction vers 1500. Et quand on se pose là au bord de l'eau, il se passe quelque chose.
On voyage dans le temps.
On voyage dans le temps, c'est exactement ça.
Vous faites aussi des portraits de bateaux, enfin d'embarcations, le Victor, par exemple.
Alors, le Victor qui a été sauvé il y a une vingtaine d'années, le Victor qui a connu, il y a un siècle de ça, donc à Pontymène, un accident qui, en fait, la cloué là. Et il est resté pendant 70 ans dans sa gangue de vase. Et ce sont des bénévoles qui l'ont sorti de la vase il y a une vingtaine d'années et qui, aujourd'hui, cherchent des successeurs. Et si je peux, alors je ne suis pas leur porte-parole, mais lancer un appel, on a là le dernier témoin vivant de l'histoire de la batellerie à l'ouest de la Bretagne, le Victor.
Qu'est-ce qu'il transportait, le Victor ?
Ah bah, il transportait des ardoises, notamment. Et le jour de l'accident, c'était un chargement d'ardoises. Et c'est un bateau donc, qui a été construit, je crois, en 1893-94, de mémoire, dans un chantier naval nantais. Donc, il est vraiment partie intégrante de l'histoire de ce canal. Et encore une fois, c'est des bateaux comme ça, il y en a très peu de cette époque-là. Et donc, aujourd'hui, on peut le visiter. Mais la génération de ceux qui l'ont sauvé cherche des successeurs. Et donc, je lance un appel aussi aux collectivités bretonnes pour se saisir vraiment de ce joyau, des vieux gréements. Les vieux gréements sur nos côtes, c'est important, mais les bateaux de travail qui ont servi sur le canal, c'est important de les préserver aussi, et on n'en a plus beaucoup.
Alors là, on en vient d'ailleurs petit à petit à cette activité aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, on l'a dit, c'est surtout un lieu touristique, finalement, le canal de Nantes à Brest. Mais quelles sont les activités qui sont vraiment liées au canal ? Alors,
on trouve vraiment des activités intéressantes dans des genres très différents. Alors, il y a un atelier de céramique exceptionnel à Pont-Coublanc, qui est l'atelier de Jeanne-Sara Belaïch, La Terre Tourne, qui est donc... Enfin, le travail qui est fait là, il y a aussi des stages. D'ailleurs, on peut s'initier à la céramique. Il y a les activités nautiques, proprement dites, de l'entreprise Canal Loisirs, du côté de Châteauneuf. Il y a les manifestations culturelles qui animent les villes, dont Fest Jazz en juillet,
aussi.
Qui d'ailleurs se produit sur le canal. Il y a des concerts qui sont donnés sur le canal.
Oui, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, pas seulement avec le Fest Jazz, des concerts sur barge. Sur le canal, il y en a eu plusieurs.
Hein. Il y a les artistes qui ont été marqués par leur passage dans des communes traversées par le canal. On pense évidemment à Jean Moulin, à Châteaulin, qui a été sous-préfet pendant 3 ans à Châteaulin, et qui était un artiste.
Oui, il dessinait très bien.
Et qui s'est, lors de son passage à Châteaulin, a beaucoup fréquenté les artistes bretons, a été très impressionné par les fêtes populaires, les pardons notamment. Il y a Paul Sérusy à Châteauneuf, qui aura bientôt son musée, et qui, lui aussi, était très inspiré par les paysages du canal. Il y a les jardins remarquables de Marilyn Lemoigne à Gouarec, là aussi, c'est un joyau au plan paysager. Voilà, quand on a la chance de pouvoir les visiter. Donc, il y a ceux qui font circuler des bateaux à l'année. Il y a l'association Tali de Nantes à Brest à Gouarec qui construit des bateaux. Donc, pour transporter les personnes.
Donc, pour de la balade, hein, c'est ça.
Pour de la balade, ouais. Sur le canal du côté de Gouarec.
Il n'y a pas encore de transport en commun lié au canal.
Non, c'est pas encore. Pas encore. Non.
Oui, parce que pour les activités économiques aussi, bon, il y a eu beaucoup d'hydroélectricité. Est-ce que ça aurait un sens de refaire des petites usines hydroélectriques très locales sur le canal ?
Alors ça, c'est un sujet un peu polémique parce que c'est en rapport avec aussi la biodiversité aquatique. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a un potentiel, effectivement, de micro-électricité, hydroélectricité sur le canal, oui.
Mais il ne faut pas que ça empêche les saumons de passer,
C'est sûrement compatible, mais je ne suis pas suffisamment spécialiste du sujet pour en parler.
Alors, il vous reste 30 secondes pour dire ce que vous retirez de cette expérience, de ce livre.
Le titre correspond à ce que j'ai ressenti en écrivant ce livre, le voyage intérieur. Pour moi, ça a été vraiment une façon de me plonger dans la Bretagne intérieure et puis aussi de me ressourcer. d'avancer, de me déplacer à la vitesse des chevaux qui allaient les péniches jusqu'à la fin du 19e siècle le long du canal. Et donc, ça a été vraiment un moment exceptionnel pour moi. J'ai beaucoup apprécié.
Voilà ce livre, donc Voyage intérieur de l'océan à Guerlédan, pardon. C'est aux éditions Morancy et c'est distribué par Cobb Braze. Merci.
Merci, Véronique.